Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il s'est aventuré en Amazonie au péril de sa vie et au nom d'une passion, l'exploration. Stéphane Bern lasse ses chaussures de rando, se badigeonne de citronnelle et remonte jusqu'au XVIIIe siècle pour suivre les traces d'un incroyable téméraire, le scientifique Charles-Marie de la Condamine.
Je me trouvais dans un nouveau monde, éloigné de tout commerce humain, sur une mer d'eau douce, au milieu d'un labyrinthe de lacs, de rivières et de canaux qui pénètrent en tous sens une forêt immense. Mes yeux ne pouvaient se lasser de faire le tour de l'horizon, de l'eau, de la verdure et rien de plus. On foule la terre aux pieds sans la voir. Elle est si couverte d'herbes touffues, de plantes et de broussailles. Une pierre, un simple caillou est aussi rare que le serait un diamant. En entendant cette description remarquablement vivante des contrées reculées de la forêt amazonienne, votre esprit n'a pas pu s'empêcher d'imaginer un reporter intrépide, ou peut-être un explorateur type Indiana Jones sur les traces d'une cité perdue. Eh bien non, pas du tout. Celui qui a écrit ces lignes était plus porté sur les culottes courtes et le juste au corps, plus enclin à se coiffer de soyeux rouleaux de cheveux sur les oreilles que d'un chapeau Fedora. Car oui, ces mots ont été écrits par Charles-Marie de la Condamine, scientifique et astronome français du XVIIIe siècle, membre de l'Académie royale des sciences de Paris, parti descendre l'Amazone d'ouest en est en 1743. 1743, non mais imaginez un peu, à 9000 km de là, de l'autre côté de l'Atlantique, Louis XV, dit le bien-aimé, règne sur la France. Cette année-là, le cardinal de Fleury, son principal ministre, vient de mourir, laisse enfin au roi l'occasion de gouverner seul sur le royaume, et bientôt une certaine Jeanne-Antoinette Poisson deviendra Madame de Pompadour, maîtresse en titre du roi. Le luxe de Versailles d'un côté, la luxuriance de la forêt amazonienne de l'autre, entre ces deux univers aux antipodes, un lien improbable, s'est pourtant bien tissé par l'intermédiaire de ces deux hommes d'une incorrigible curiosité, le savant et explorateur Charles-Marie de la Condamine et Louis XV lui-même, prince cultivé s'il en est et grand financeur d'exploration maritime lointaine par l'intermédiaire de son ministre de la Marine de l'époque, le comte de Maurepas. Tout commence 7 ans plus tôt. Le 16 mai 1735, ce jour-là, un navire de la Marine royale s'apprête à lever l'ancre du port de La Rochelle pour rejoindre Carthagène des Indes en Amérique méridionale. À son bord ont embarqué une dizaine de savants en partance pour la cordillère des Andes, au Pérou. Le grand scientifique Charles-Marie de la Condamine fait partie de ceux qui dirigent cette expédition. Il est spécialisé notamment dans l'astronomie et la géodésie, comprenez l'étude de la forme de la Terre. C'est bien cela qui motive cette mission géodésique française qui doit mettre un terme à une querelle qui divise les savants de l'époque depuis fort longtemps, à savoir l'aspect exact de notre planète. Est-elle ovale, mais aplatie au niveau des pôles, comme le prétend Newton? Ou est-elle aplatie à l'équateur, comme le prétendent les cartésiens? La réponse coûtera cher aux explorateurs français. Dans cet univers hostile qu'est la cordillère, la mission fait plusieurs victimes. Un mort du paludisme, un autre assassiné pendant un mouvement de foule, et finalement, après 7 années d'observation du ciel et de calculs complexes menés dans de pénibles conditions, le verdict tombe, Newton avait raison. Ces difficultés n'ont en rien entamé l'enthousiasme de la Condamine pour ce continent hostile. Bien au contraire, l'homme a 2 traits de caractère bien marqués, il est curieux jusqu'à l'excès, ce qui lui vaut d'ailleurs le surnom de l'inquisitif, et il est également courageux, certains diraient même téméraire. Rien d'étonnant quand on connaît son parcours, car ce fils d'un receveur des finances, né en 1701 à Paris, fut d'abord soldat avant d'être scientifique, avant que sa passion pour la chimie et les mathématiques n'ait raison de cette carrière militaire, et lui vale d'être élu à l'âge de 29 ans à l'Académie royale des sciences. Un homme comme ça ne se décourage pas. Et contre toute attente donc, la Condamine décide au terme de sa mission, non pas de rentrer sagement en France par le port de Carthagène, mais de faire un petit détour, et pas des moindres. Il passera par la route la plus longue et la plus dangereuse qui soit, par le cœur du continent à travers la forêt amazonienne, l'une des régions naturelles les plus isolées au monde, sur le mythique et méconnu fleuve Amazone. C'est ainsi que le 11 mai 1743, la Condamine, 42 ans, entame son incroyable voyage de retour vers l'Europe. De Tarqui, terre australe à 5 lieues, au sud de Coa Inca, il débute un périple à travers la cordillère des Andes, direction la partie haute du fleuve. Il lui faut ainsi 2 mois pour rallier 300 kilomètres plus au sud la ville péruvienne de Raén de Bracamoros, située près de l'un des affluents majeurs de l'Amazone, Rio Marañón. C'est là que le 4 juillet, il entame sa descente de l'Amazone. Il embarque à bord, non pas d'un bateau confortable, ni même d'un canot, mais d'un radeau de bois que lui construisent des Indiens du coin. Radeau certes assez grand pour le transporter, lui, ses instruments et son bagage, mais radeau quand même. Dans cette partie haute du fleuve, il n'y a que ce type d'embarcation qui peut résister à l'impétuosité du courant. Et la Condamine va bientôt la prendre à ses dépens. Les passages difficiles sont nombreux dans cette partie encore très en relief du Rio Marañón. C'est le cas par exemple du détroit d'Escurebragas qui vaudra à la Condamine une belle frayeur. Car en cet endroit, pour reprendre ses mots, le choc des eaux avec toute la vitesse acquise par le rétrécissement du canal crée un tourbillon fort dangereux. Pris dans ce piège, le 9 juillet 1743, son radeau n'y fait que tournoyer, les eaux le ramenant sans cesse vers le milieu du lit de la rivière où la rencontre du grand courant forme des vagues qui menacent de le submerger. Heureusement pour la Condamine, il n'est pas seul. 4 Indiens le suivent en canot et parviennent non sans mal à le sortir de cette mauvaise passe. Au cours de ce mois de juillet, la Condamine débouche enfin sur la plaine amazonienne, au niveau de la province péruvienne de Meinas. Ses yeux, accoutumés depuis 7 ans à voir des montagnes se perdre dans les nuages, sont stupéfaits de ce qu'ils découvrent alors. Cette fameuse mer d'eau douce, au milieu d'un labyrinthe de lacs, de rivières et de canaux qui pénètrent en tous sens une forêt immense. À l'orée de ce monde étrange d'eau et de luxuriance végétale, il est rejoint dans son péril par un certain Pedro Vicente de Maldonado, collaborateur scientifique dont il a fait la rencontre 6 ans plus tôt au Pérou. C'est ensemble qu'ils vont poursuivre le voyage jusqu'à la côte atlantique. Trajet au cours duquel les deux hommes feront nombre d'observations scientifiques précieuses. Sur les caractéristiques du fleuve d'abord, mais aussi sur les espèces animales et végétales inconnues qui peuplent ses rives, sur les propriétés et les usages des sucs de certains arbres, curare, quinine, caoutchouc. Ensemble, ils enquêtent aussi sur l'existence des Amazones et sur le pays mythique de l'Eldorado. Des légendes véhiculées par les explorateurs des XVIe et XVIIe siècles. Sans succès car, selon les mots de la Condamine, tout semble avoir disparu comme dans un palais enchanté. Ils atteignent finalement l'Atlantique à Para le 19 septembre 1743 et embarquent à Cayenne, point final de leur voyage en février 1744 pour enfin revenir en Europe en août de la même année. La Condamine était loin de penser que son voyage en Amérique du Sud occuperait 10 ans de sa vie. Et le voilà qui retrouve Paris. Il y fait devant ses confrères de l'Académie des sciences le récit incroyable de ses aventures, ce même récit dont est tirée l'histoire que je viens de vous raconter.
Europe 1, historiquement vôtre.